RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Zéphirin Quadio est à mes côtés pour présenter cette édition. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une ce soir, la mort d'une journaliste en Irlande du Nord tuée lors d'émeutes dans la ville de Londonderry. La police dénonce un acte terroriste.
Et puis le soutien de la France aux forces démocratiques syriennes. Une délégation de ces combattants arabo-kurdes qui luttent contre le groupe État islamique en Syrie était reçue aujourd'hui par Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron qui s'exprimera finalement jeudi sur les conclusions du grand débat. Une intervention initialement prévue cette semaine, mais que l'incendie de Notre-Dame de Paris l'avait contrainte à repousser.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
Et d'abord, la mort par balle d'une journaliste en Irlande du Nord lors d'affrontements à Londonderry.
Les faits ont eu lieu lors d'une opération de police destinée à saisir des armes dans un quartier de la ville. Selon les forces de l'ordre qui parlent d'un incident terroriste, les coups de feu qui visaient les policiers ont été tirés par la nouvelle armée républicaine irlandaise, un mouvement qui revendique par la violence la réunification de l'Irlande. La victime, Lyra McKee, était une journaliste d'investigation réputée, Juliette Gerbrand.
C'est un vendredi saint qui fait mal au ventre, a tweeté à l'aube une journaliste qui était à côté de Lyra McKee quand cette dernière a été touchée. Elle se trouvait dans le quartier majoritairement républicain nationaliste de Craigan, où la police menait des perquisitions à la veille du jour anniversaire des accords de paix. Lyra McKee n'a pas été visée personnellement. Elle se trouvait près des policiers quand un homme a tiré dans leur direction. Transportée à l'hôpital, elle a rapidement succombé à ses blessures. Elle avait tweeté peu avant une photo du quartier d'où s'échappe une fumée noire avec cette légende. Derry ce soir, complètement insensé. Élue jeune journaliste de l'année par Sky News en 2016, elle figurait cette même année dans le classement Forbes des 30 journalistes de moins de 30 ans les plus prometteurs. Il y a quelques années, dans une lettre autobiographique devenue virale sur Internet, elle racontait les difficultés d'une adolescente homosexuelle à Belfast. Lyra McKee devait publier l'an prochain une enquête sur la disparition de deux jeunes garçons à Belfast en 1974. Elle avait publié l'an dernier un livre sur l'assassinat du député nord-irlandais Robert Bradford par l'armée républicaine irlandaise.
Juliette Gerbrand, à la une également, la réponse de la Turquie ce soir après la visite à Paris d'une délégation des forces démocratiques syriennes, une délégation qualifiée de terroriste par Ankara.
Et nous condamnons l'accueil par le président français Emmanuel Macron d'une délégation des soi-disant forces démocratiques syriennes. C'est ce qu'indique le communiqué du ministère turc des Affaires étrangères. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron recevait en effet à l'Elysée des FDS alors que les États-Unis vont retirer 2000 soldats de Syrie à la fin de l'année. La France réaffirme, elle, son soutien à ces combattants arabo-kurdes qui sont en première ligne dans la lutte contre le groupe État islamique. Vincent Souriau.
L'Elysée s'engage sur trois axes. D'abord, l'aspect militaire. La France ne dit pas combien d'hommes, mais elle va maintenir des troupes en Syrie, aux côtés des forces démocratiques syriennes, pour anéantir les cellules dormantes de l'organisation État islamique. La logistique, la gestion des terroristes capturés sur les zones de combat demande du personnel, du temps et de l'argent. Emmanuel Macron promet de soutenir les FDS qui détiennent des milliers de djihadistes et leurs familles dans des camps d'internement. L'humanitaire et la reconstruction, Paris va débloquer des fonds, au moins 1 million d'euros, pour les civils déplacés par le conflit, mais aussi pour l'administration kurde, les services publics du Kurdistan irakien, dont est issue une grosse partie des combattants des forces démocratiques syriennes. Enfin, face à la Turquie qui menace de lancer l'assaut contre les milices kurdes, le président français rappelle l'attachement de la France à la sécurité du peuple turc, mais il insiste sur le besoin d'une désescalade le long de la ligne de démarcation turco-syrienne.
Vincent Souriau, En bref, en Ukraine, J-2 avant le second tour de la présidentielle.
Un second tour qui oppose le sortant Petro Poroshenko à l'acteur et humoriste Volodymyr Zelensky, lequel n'a aucune expérience en politique, ce qui ne l'empêche pas d'être le favori des sondages, selon qui plus de 7 électeurs sur 10 comptent voter pour lui.
L'actualité dans le monde, la justice a annulé la condamnation à 3 ans de prison à l'encontre de l'opposant en exil Moïse Katumbi en RDC.
En RDC, c'est ce qu'indique son avocat, qui ajoute que l'ex-gouverneur du Katanga peut rentrer, je cite, en homme libre en République démocratique du Congo. Allié puis adversaire de l'ex-président Joseph Kabila, Moïse Katumbi était poursuivi dans une affaire de spoliation immobilière dont il niait tout fondement.
Et puis en Algérie, nouvelle journée de manifestation.
Comme chaque vendredi depuis le 22 février, une manifestation pour réclamer des réformes et le départ de l'élite au pouvoir, notamment le départ du président par intérim Abdelkader Ben Salah, proche de l'ancien chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, lequel a démissionné le 2 avril, je le rappelle, sous la pression de la rue qui demande également le départ du Premier ministre Noureddine Bédoui.
Et puis en France, eux aussi s'apprêtent à manifester pour la 23e semaine consécutive. Les Gilets jaunes seront de nouveau dans les rues demain samedi.
Et notamment dans les rues de la capitale où le rassemblement pourrait être pollué par la présence de casseurs. C'est ce que croit savoir le ministère de l'Intérieur qui craint des scènes de violence malgré un parcours de la manifestation qui évite les Champs-Élysées et Notre-Dame de Paris. À noter qu'Emmanuel Macron s'exprimera finalement jeudi pour présenter les conclusions du grand débat national voulu par le chef de l'État comme une réponse à la crise des Gilets jaunes. Son intervention initialement programmée lundi ayant été annulé après l'incendie de Notre-Dame de Paris.
Le journal en français, facile.
Sur RFI, il est 14h06 à Managua, au Nicaragua, où l'opposition politique et le peuple manifestent depuis un an, jour pour jour.
Le 18 avril 2018, la mobilisation concernait la sécurité sociale. S'en est suivi un mouvement de plus grande ampleur, largement réprimé par le régime de Daniel Ortega. Une répression qui a fait à ce stade 325 morts, auxquels il faut ajouter 779 personnes emprisonnées, selon l'opposition. Cette crise politique a fait également fuir plus de 50 000 Nicaraguayens et plongé le pays dans une récession. Pour Vilma Núñez, figure de la défense des droits de l'homme au Nicaragua, Daniel Ortega fait preuve de surdité.
La situation a cambiado para peur.
La situation a changé pour le pire. Elle a vraiment empiré. La situation des droits de l'homme et la vie quotidienne au Nicaragua sont pires aujourd'hui qu'il y a un an, quand les mobilisations ont commencé le 18 avril. Il y avait déjà beaucoup de problèmes. Il y avait déjà un régime dictatorial, un régime qui concentre tous les pouvoirs et une destruction des institutions. Mais il y avait encore, il y a un an, un système de gouvernement corporatiste. Le gouvernement avait mis en place une alliance avec les entrepreneurs, avec la classe économique. Bien sûr, cette alliance allait dans le sens d'une détérioration des droits des plus pauvres, mais il y avait une certaine stabilité apparente. Mais maintenant, non, il n'y a aucune sécurité d'aucun type. Il n'y a pas de sécurité juridique ni physique, parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez sortir dans la rue, croiser une patrouille et vous faire emprisonner. Par exemple, si vous chantez l'hymne national ou portez un drapeau.
Les propos de Vilma Núñez, figure de la défense des droits de l'homme au Nicaragua, et dont l'organisation, le CENID, a été interdite dans le pays, Zéphirin.
Gros plan à présent sur la situation de Jet Airways, la plus ancienne compagnie aérienne privée d'Inde, en pleine zone de turbulence.
Oui, elle est même presque au bord du crash après l'annulation de tous ses vols dimanche dernier. Le groupe a annoncé l'interruption temporaire de ses vols internes cette semaine. Dans l'attente d'une injection de fonds, la compagnie nationale Air India tente de venir modestement en aide à Jet Airways et à ses milliers d'employés laissés sur le carreau. Le point avec Antoine Guinard.
Les images de pilotes et de membres d'équipage en pleurs, diffusées dans les médias indiens, dépeignent depuis quelques jours la gravité de la situation pour Jet Airways. La plus ancienne compagnie aérienne privée d'Inde est sous respiration artificielle, alors que les créanciers ont refusé mercredi une aide d'urgence de 125 millions d'euros. Le vol Amritsar-Bombay du 18 avril était-il donc le dernier de l'histoire de Jet Airways ? C'est fort probable, même si la compagnie qui avait été la première à briser le monopole d'Air India au début des années 90 n'est pas encore enterrée. Jet Airways, qui a accumulé près d'un milliard d'euros de dettes, a déclaré qu'elle attendrait la finalisation du processus d'appel d'offres par les prêteurs, prévu fin mai, qui pourrait remettre le groupe à flot. Pour remédier dans l'immédiat à cette crise qui menace de mettre plus de 16 000 employés au chômage, Air India a recruté de son côté 150 stewards et hôtesses de l'air de Jet Airways ces derniers jours. Air India a également évoqué la possibilité de louer 5 Boeing 777 appartenant à Jet Airways afin de les utiliser sur des vols internationaux. Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Et un mot de sport pour refermer ce journal avec du tennis. L'équipe de France féminine affronte en Roumanie ce week-end. En demi-finale de Fed Cup affronte la Roumanie. Les deux premiers simples auront lieu demain en ouverture. Kristina Mladenovic affrontera Simona Halep. Caroline Garcia sera, elle, opposée à Mihaela Buzărnescu.